L'émission du fictionnaire avec en direct par téléphone Isabelle Stengers. Merci beaucoup Isabelle Stengers d'être avec nous.
Mais je t'ai appelé.
Nous parlons de votre dernier livre, Réactiver le sens commun, lecture de Whitehead en temps de débâcle, qui est sorti au mois de janvier aux empêcheurs de penser en rond. Le point de départ de votre livre serait ceci, je vous cite. Whitehead a fait du sens commun une contrainte pour la philosophie. C'est une contrainte parce que la philosophie telle qu'il l'entend se doit de refuser la liberté à laquelle s'adonnent les pensées spécialisées qui rejettent ou excluent ce qui est incompatible avec leurs présupposés.
Mmh. Oui, et je crois même que c'est ce qui m'a attaché à Whitehead, c'est ce problème qui est celui de, qu'on veut dire, de la modernité, est ce qui a fait de lui un philosophe. Et donc, il a cherché à restituer des contraintes sur les spécialistes qui se font gloire de choquer le sens commun, qui voient même que le sérieux de leur pensée est dans la manière dont ils déçoivent ce que les gens sont dit croire.
Et donc, cette tâche de la philosophie serait celle de souder le sens commun avec l'imagination.
Exactement. Ce qui ne va pas de soi, il serait même dit contradictoire, puisque dans les théories du sens commun, on le rend réaliste, un peu lourdeau, vite satisfait, etc. Et là, il s'agit de souder ce qui est une opération, on pourrait dire une opération culturelle, c'est une opération technique. Il s'agit de recréer des manières de réraccorder ce qui, au fond, a été cassé, qui a été séparé, parce que nous ne savons pas ce qu'est le sens commun aujourd'hui. Nous vivons à l'époque de la défaite du sens commun, au sens de défaire, vraiment défaite, pas le contraire de la victoire, mais comme on défait ce qui se fait, décomposition active, disons.
Et alors, qu'entend Whitehead par imagination? Est-ce qu'il entend le devenir sensible aux raisons des autres?
Il entend, pour lui, l'imagination, c'est quelque chose dont on pourrait dire que c'est ce dont il dit que les humains ont la palme parmi d'autres espèces vivantes. Ça ne veut pas dire qu'un chat n'a pas d'imagination, ça veut dire que le sens de l'impossible, le sens du fait que les choses pourraient être autrement, est quelque chose qui importe pour nous de manière tout à fait singulière. Donc l'imagination, c'est la possibilité, au fond, on pourrait dire aussi, oui, de s'intéresser au fait que l'autre ne pense pas comme vous, qu'il est possible de penser autrement, qu'il est possible de vivre autrement. Et je crois que le fait que, comment dirais-je, cette imagination n'est pas élitiste, c'est... La personne que vous interviewerez après, Vinciane Després, et le succès de ses livres en est une preuve, au fond, parce qu'elle passionne un grand nombre de lecteurs, qui ne sont pas du tout tous des universitaires. Elle les passionne à cette idée de quelle est l'expérience des animaux, comment leur poser les bonnes questions qui nous permettraient d'approcher cette chose difficile à approcher qui est l'expérience des animaux. Alors, donc ça, c'est ce succès de ces recherches-là, leur succès, comme on dirait, grand public, traduit que nous sommes assoiffés de ce que j'appellerais l'imagination, c'est-à-dire être sensible à quelque chose d'autre que ce qui nous est familier ou normal est possible.
Vous écrivez que la question du sens commun a changé et que souder l'imagination au sens commun n'est plus d'abord la tâche du philosophe, et c'est ce que tentent aujourd'hui les activistes, c'est-à-dire de faire sens commun. Ça passerait maintenant, de nos jours, par les activistes plutôt.
Disons que la philosophie moderne a pris le parti de... Enfin, pour devenir sérieuse, a pris en charge, au même titre que ce qu'on appelle la science, l'institution scientifique, la noble tâche d'apprendre, comment dirais-je, aux gens qu'ils se trompent quand ils croient pouvoir penser hors normes. Donc, Whitehead est un exemple et j'essaye de le suivre aussi, mais la philosophie doit elle-même apprendre à ressouder pour elle-même le sens commun et l'imagination. Donc, je ne dis pas que par contre, les activistes, eux, par exemple, quand les activistes disent « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend », il faut un saut de l'imagination qui, transforme le mot « nature », lui donne un sens nouveau et l'ouvre à ses aventures où justement ce qui s'opposait, l'humain et la nature, font cause commune. Ou c'est pas qu'ils le fassent, c'est que se vivent comme ayant une cause commune. Donc les activistes pour le moment sont ceux qui tentent d'imaginer d'autres modes de vie ensemble et d'autres modes de faire, c'est le mot que j'aime bien, faire sens en commun. C'est-à-dire ne pas laisser des arguments d'autorité ou des arguments de « il faut bien » les décourager. Au contraire, de savoir que celui qui dit « il faut bien », c'est celui qui, c'est celui qui vous veut du mal, on pourrait dire, de la même manière que c'est celui qui détruit la nature.
Et alors, on tombe sur un concept que vous utilisez, celui de bifurcation. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ce moment où vous parlez de l'emprise de la bifurcation qui, là, justement, concerne à la fois le sens commun et les activistes.
C'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, mais quand Whitehead l'a employé, c'est à lui que je le reprends, il s'agissait de ce qu'il appelait la bifurcation de la nature. Les rationalistes modernes, encore une fois parce que c'est une invention moderne, opposent et distinguent fortement, tout à fait fortement, surtout ne pas confondre une nature dite objective qui existerait indépendamment de ce qu'en pense ou en sente ou en valorise les humains et la nature telle que nous la valorisons. Donc la nature en elle-même, ce sont des lois, étrangères à toutes nos valeurs, mais c'est nous qui, au fond, apprécions ces beautés c'est notre imagination, on peut dire, qui lui prête ses beautés, ses émotions, etc. Et donc, Whitehead a vraiment construit sa pensée sur le refus de cette bifurcation. Il faut créer une cohérence dans notre rapport au monde, et d'ailleurs dans notre rapport à nous-mêmes, et créer une cohérence, ça fait partie des outils qu'il a employés pour souder justement l'imagination et le sens commun.
Et c'est ce que vous réactivez? Vous réactivez cette résistance à la bifurcation?
J'essaye de la réactiver aujourd'hui, puisqu'elle a bien résisté aux instruments de Whitehead, mais il y a moyen éventuellement de prolonger ces instruments, d'en hériter et de les penser aujourd'hui, dans ce moment qu'il n'avait pas imaginé, où la manière dont nous avons traité ce que nous appelons nature se retourne contre nous, ce que j'appelle un moment de débâcle, c'est-à-dire tout ce qui permettait aux humains modernes d'avancer dans d'un pas assez affirmé, eh bien tout ça, c'est comme un fleuve qui entre en débâcle, rien ne tient plus, rien ne tient plus. Donc nous nous sommes mis en danger, et donc c'est ce moment que je pense être une autre époque que celle de Whitehead qui me force à penser et à voir et à reprendre ces outils intellectuels, sa philosophie pour penser aujourd'hui.
Penser aujourd'hui, à l'heure de la catastrophe écologique et climatique, les OGM par exemple, ce moment a été important pour vous parce que vous êtes épistémologue des sciences, et c'est peut-être le moment qui vous a convaincu que le fait scientifique ne pouvait pas être neutre, que le fait scientifique était aussi, qu'il y avait aussi un regard politique, un regard aussi économique, et que ça intéressait complètement la société. Vous écrivez: pour Whitehead, il s'agit de résister à l'idée que les faits obtenus par la science sont libres quant aux valeurs. Et cela, c'est aussi par vous, par Bruno Latour, épistémologue des sciences et philosophe, que l'on apprend qu'il n'y a pas de neutralité des faits scientifiques.
Ben, disons qu'ils sont neutres pour les scientifiques au sens où ils sont dominés, enfin, en tout cas pour les expérimentateurs, hein, qui sont ceux dont Whitehead parle et ceux dont je parle quand je veux dire du bien des sciences. Ils sont neutres au sens où rien n'est plus important que le fait qu'ils tiennent indépendamment de nos convictions. On leur a donné le pouvoir de tenir. L'électron ou la Terre tourne, ou l'électron existe et il a une masse que nous appellerons négative, que vous le vouliez ou non. Et là, il n'y a pas de mépris du sens commun, parce qu'ils ont inventé des questions auxquelles ils pouvaient donner ce genre de réponse. Mais il y a beaucoup de questions qu'ils ignorent, et quand les biologistes s'emparent des vivants, et notamment des vivants de l'agriculture, je veux dire, on n'est plus dans ce schéma-là. Disons que ce qui m'a intéressé avec les OGM, c'est pas seulement le problème qui est plus ancien, enfin, qui accompagne la modernité de la maîtrise et violence faite aux vivants, c'est que là, il y a eu une véritable résistance. Il y a eu un faire sens en commun. Les experts qui disaient que c'était le progrès, qu'il fallait être retardataire et peureux pour le refuser, se sont mis à bafouiller. Toutes les raisons qu'on avait de craindre effectivement les OGM, et pas d'avoir peur parce qu'on est peureux, non, les bonnes raisons qu'on avait de refuser les OGM se sont unies, ne se sont pas opposées pour savoir quelle était la bonne. Non, non, il y a eu une véritable coalition, et ça donnait un sens à la possibilité que l'activisme puisse remettre la science à sa place.
Et alors pour ça, il y aurait besoin d'un exercice diplomatique. Vous vous attardez sur plusieurs pages de l'expérience menée par Bruno Latour à la suite de son enquête sur les modes d'existence, expérience auquel vous avez participé. Parlez-nous de cette agora et du diplomate Bruno Latour qui va essayer de faire parler au mieux les différentes institutions, les différents interlocuteurs et tout ça en public devant, en fait, le sens commun.
Devant un public qui n'est pas un public de Trumpistes, hein, parce que les partisans de Trump ou d'autres parmi nous ici aussi, sont pour moi des gens qu'on a humiliés, enfin avant tout, mais en tout cas qui ne veulent plus rien écouter. Donc j'imagine un public qui a l'habitude, qui a été élevé à l'idée que les scientifiques savent mieux, mais qui écoute un peu comme on écoute une pièce de théâtre. Et le diplomate est en train d'essayer devant les autres, et ça c'est important, l'hétérogénéité des savoirs scientifiques. Parce que les savoirs scientifiques s'entre-méprisent ou s'entre-envient les uns les autres. Il n'y a aucune unité. La science, l'unité de la science, au fond, c'est le refrain commun, l'opinion a toujours tort. Donc, la science contre l'opinion. C'est le seul type d'unité de cette science-là. Et donc, voilà que l'opinion les écoute. Et le diplomate propose effectivement une manière de bien parler, non insultante, à chacun de ce qu'il fait ou de ce qu'il tente de faire. Et les autres spécialistes écoutent aux aguets parce qu'ils ont l'habitude des relations de guerre. Donc, il y a une espèce de situation multiple. Et voilà que le public aussi écoute les jugements qui passent à son sujet, puisque la manière la plus assurée des scientifiques de se présenter, c'est contre l'opinion. Et et tout ça crée une situation de tension qui est une espèce d'expérience de pensée qui nous dit au fond que l'un des problèmes des sciences, c'est leur milieu raréfié, le milieu qui leur permet d'insulter avec impunité des gens, le milieu qui fait aussi qu'ils sont censés sur la défensive par rapport à l'un d'entre eux qui leur semblerait, démagogue, c'est-à-dire prêt à écouter l'opinion. Pour prendre un exemple, regardez Raoult. C'est un médecin, je ne suis pas sûre que ce soit scientifique. Les relations entre science et médecine sont plus que troubles. Mais la haine qu'il a suscitée, justement, parce qu'il en a appelé aux gens. Ben ça, c'est le crime par excellence. Et voilà que dans cette situation-là, eh bien, les gens sont là pour écouter comment on parle d'eux dans une situation où il n'y a pas une personne qui fait autorité, mais des personnes qui s'entre-discutent, mais qui s'entendent pour le maltraiter. Et donc, il y a aussi peut-être une densification du milieu, une densification des relations qui est aussi la possibilité d'une ouverture de l'imagination. Parce que les imaginations des scientifiques sont blindées par leur peur et leur mépris. Souvent, hein, je ne parle pas des individus, mais l'institution encourage ça. Et l'imagination des gens non scientifiques, comme on dit, sauf les activistes, sont blindées par le respect qui leur a été inculqué. Et au fond, le fait qu'ils ne se font pas confiance. Ils ne font pas confiance à leur capacité d'objecter.
Parce que vous écrivez, Isabelle Stengers, à propos de cette agora de Bruno Latour, que le public, sa présence, sa manière de faire milieu pour les autres protagonistes va être cruciale. Et qu'il va en effet donner sens à une injonction que Latour a héritée de Whitehead, avant tout, ne pas choquer le sens commun.
Ils ne seront pas choqués, ils ne seraient pas choqués par le fait que Einstein, par exemple, affirme que la relativité n'est pas un caractère absolu, ça c'est la relativité. Hein. Ça ne le choquerait pas, c'est les questions d'Einstein. Il voudrait écouter l'histoire de comment Einstein en est arrivé là. Comment on peut penser ça? Il serait prêt à écouter, en tout cas. Par contre, le fait que les physiciens reprennent en cœur ce que nous disons renvoie le science commun aux oubliettes, lui attribue à lui ce que Einstein vient de démonter, attribue à etc. Ça peut le choquer, du moment que, justement, il le sent comme tel. En général, ça marche. J'ai été très, très impressionnée lors de ce qu'on a appelé la guerre des sciences, là où, contre, justement, des gens comme Latour qui essayaient de ramener les pratiques scientifiques à quelque chose qu'on puisse comprendre et pas une espèce de science qui viendrait de la raison toute armée, eh bien, les physiciens disaient impunément que ceux qui ne croyaient pas à la réalité des physiciens, eh bien, ils pouvaient essayer de se jeter par la fenêtre du 10e étage de préférence et ils verraient si ça n'existe pas, les lois de la gravitation. C'est comme si, et les gens acceptaient, parce que justement, ils ont tellement l'habitude d'être humiliés qu'ils en viennent à accepter ce qui, objectivement, les insulte. Et par exemple, ça veut dire qu'effectivement, avant qu'on ait établi les lois de la gravitation, on confondait les portes, les fenêtres sans aucun problème. Donc ils acceptent ça. Ils acceptent et ça fait un surplus de conneries, disons, et du côté du physicien qui oublie la beauté de sa science et qui la transforme en une espèce d'évidence, et les gens qui se rendent pas compte, qui acceptent qui s'arrêtent de penser qu'un scientifique parle. Donc on est dans une situation éminemment malsaine, et c'est bien celle-là que Whitehead tentait de poser le problème, et moi à sa suite, et la tour à sa suite, chacun avec ses moyens.
Alors, dans les moyens que vous utilisez, en reprenant Whitehead, pour cette soudure entre le sens commun et l'imagination, vous parlez d'expériences métamorphiques que Whitehead appelle « cheer disclosure ». Qu'est-ce donc ?
Eh bien, c'est, pour lui, c'est la chose la plus importante, c'est ce qu'il tente de susciter dans ses énoncés. Il dit d'ailleurs que la seule réussite pour la philosophie, parce que la philosophie ne peut pas démontrer à la manière de la logique et des mathématiques. Wittel était mathématicien, il savait que la philosophie, c'est une très mauvaise démonstration. Donc, ce qu'elle doit faire, c'est susciter l'expérience. Ah oui, mais c'est vrai, ça compte, ça. Donc, une espèce de libération de l'imagination, du ça compte, de la part de ceux qui prennent connaissance d'un énoncé. Donc, c'était un peu des énoncés qui agissent comme des. Un peu le contraire de. On disait que Socrate torpillait, mais ça voulait dire que ses auditeurs étaient tout ébahis, quoi. Un peu endormis, assommés. La torpille assomme. Lui, il donne des électrochocs, mais qui suscitent tout à coup une nouvelle possibilité de comprendre, une nouvelle possibilité de voir, hein, non d'une pipe, mais comment. Et ça marque, ça transforme l'expérience, ça devient un ingrédient d'expérience, et on ne s'en laissera plus compter. Moi aussi, j'essaye un peu de procéder par électrochoc. Quand, par exemple, je souligne que cette scène qui a eu lieu 1000 fois, le physicien qui propose à ses auditeurs de sauter par la fenêtre. Mais vous vous rendez compte ce qu'il était en train de faire? J'essaye de créer une. Non, d'une pipe, elle a raison. C'est pas que j'ai raison, mais elle a raison au sens de. C'est vrai que c'est tout de même ça qu'il fait. Vous voyez? Donc, la philosophie est censée créer des propositions qui. Ne mettent pas les lecteurs ou les auditeurs en situation de vous ignorer et je vous apprends, vous vous trompez et je vous rectifie, mais j'éveille votre attention, je suscite votre attention vers des choses que on a, comment dirais-je, dont on n'a pas l'habitude de prendre attention.
Et vous finissez par caractériser une figure que vous appelez la figure de la voix moyenne.
Ah, ben c'est juste, disons que la voix moyenne, c'est un terme syntaxique, hein, mais ça veut dire qu'on n'est ni dans le sujet qui agit, qui prend l'initiative, ni dans l'objet qui subit l'initiative de l'autre. Je mange une pomme, c'est moi qui agis, et la pomme, elle est mangée. Donc, nos langues privilégient cette distinction entre celui qui a l'initiative de l'action et celui qui, d'ailleurs, subit l'action. Bien, chez Whitehead, dès qu'il est question d'attention, par exemple, si je dis « fais attention à quelqu'un », c'est une supplique qui peut s'entendre en voix moyenne. « Laisse-toi affecter par cette chose. Laisse-toi intéresser par cette chose. » Et là, le sujet est transformé par l'action. Vous voyez ? Au lieu d'être celui qui agit ou celui qui subit, il a subi la sollicitation de cette chose qui demande ton attention afin de devenir capable de la percevoir comme elle pourrait être perçue et comme elle deviendrait intéressante. La voix moyenne, c'est justement se laisser toucher pour penser. Les philosophes pensent souvent que la pensée est une pure activité. Dans mon livre, je lis toujours « se laisser toucher ». Et penser. Le sheer disclosure, c'est justement un effet de voix moyenne. Tout à coup, on se laisse toucher et on va penser un peu autrement par quelque chose qui vous était indifférent ou sans importance auparavant. On voit autrement. Eh bien, voir autrement, c'est pas une initiative, c'est pas moi qui change d'avis sur la manière de voir, c'est que je me suis laissé toucher et je me suis laissé transformer par ce qui m'a touché.
Merci beaucoup Isabelle Stengers d'avoir été en direct avec nous par téléphone. Merci.
C'était un plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.